bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. La lettre doit être envoyée aujourd'hui à Bruxelles. Theresa May va y demander officiellement le report du Brexit, sans en préciser les modalités. Pendant ce temps, les Anglais patientent et s'impatientent surtout, vous l'entendrez. Nous irons ensuite dans cette édition en Tunisie, où le gouvernement va demander l'extradition du beau-frère du dictateur Ben Ali. Il a été arrêté en France la semaine dernière. Et puis nous donnerons la parole à un représentant des victimes d'abus sexuels dans l'Église. Hier, le pape François a refusé la démission du cardinal Barbarin qui avait été condamné pour non-dénonciation d'abus sexuels. Theresa May doit écrire ce mercredi aux dirigeants européens afin de solliciter un report du Brexit. Il est théoriquement toujours prévu le 29 mars, c'est-à-dire dans 9 jours. Demain débutera à Bruxelles un sommet européen et déjà les 27 pays membres ne montrent aucun enthousiasme pour accorder ce report du Brexit. Au Royaume-Uni, quand la première ministre défend coûte que coûte son texte négocié, les députés, eux, ne cessent de se déchirer. Et les habitants attendent et se déchirent également. Notre envoyée spéciale Marie-Pierre Véraud les a rencontrés dans une ville du Yorkshire.
Sheffield, divisée lors du Brexit entre l'Ouest, qui voulait rester en Europe, population aisée, universitaire, et l'Est, plus populaire, marqué par une forte immigration et favorable au Brexit. Deux mondes qui se côtoient au sein de l'université, mais n'évoquent pas le sujet tabou, raconte Daniel Lee, professeur d'histoire.
On partage ces espaces avec les femmes de ménage, les secrétaires, etc. Mais on ne discute pas du tout Brexit. Parce qu'ils ne disent pas, parce qu'ils pensent que les autres vont penser « Oh, il est raciste, il est stupide, etc. »
Ce que confirme Maria Skina, elle vend les sandwichs à l'université.
La majorité de mes clients, ce sont des universitaires et ils ne voulaient pas quitter l'Europe parce qu'ils reçoivent des bourses importantes de l'UE. Donc moi, je garde mes opinions pour moi-même. Je pense que les hommes politiques devraient s'unir, se battre ensemble pour la population de ce pays au lieu de se combattre les uns les autres, les travaillistes contre les conservateurs contre les travaillistes.
En cela, elle est totalement en phase avec ses clients universitaires, car à travers la ville comme dans le pays, les Britanniques qui restent divisés sur le Brexit se retrouvent pour partager une même lassitude face aux jeux politiciens.
Notre correspondante, notre envoyée spéciale au Royaume-Uni, Marie-Pierre Véraud. Le Premier ministre australien Scott Morrison juge irréfléchi, ignoble et offensant les propos tenus par le président turc. Recep Tayyip Erdogan avait, après l'attentat d'un extrémiste australien en Nouvelle-Zélande vendredi, il avait déclaré que cet attentat s'inscrivait dans le cadre d'une offensive contre l'islam et la Turquie. Des propos tenus donc quelques heures après l'attentat en Nouvelle-Zélande. Dans le pays, les premières funérailles des victimes se sont tenues hier. Au total, l'attaque dans deux mosquées a fait 50 morts. Aux côtés des victimes, des familles et des proches, la première ministre Jacinda Ardern était encore présente hier, applaudie même par les Néo-Zélandais pour son charisme. C'est un reportage de notre envoyée spéciale Karine Houghton.
Dignité, compassion, courage, humilité, les qualités de la première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Ardern, impressionnent. On l'a vu voilée de noir prendre les familles des victimes dans ses bras dès le lendemain de l'attaque. On a entendu cette jeune femme de 38 ans très ferme sur les armes à feu. Son comportement rassure et rend très fiers les Néo-Zélandais comme Mark Talt, 21 ans, qui réside à Christchurch.
Je pense que Jacinda Ardern a vraiment très bien réagi à tout ce qui s'est passé ici. Elle a bien géré, elle a réussi à traiter tout ça dans le calme et elle a juste essayer de se concentrer sur comment agir pour la prochaine fois, pour que cela ne se reproduise plus jamais. Parce que, bien sûr, personne ne veut que cela se reproduise. La façon dont elle s'est comportée avec le public, les médias ou les familles, à leur dire sans cesse ce qui allait se passer. Elle est très jeune. Quand elle a pris le poste, les gens ne savaient vraiment pas comment elle allait gérer la pression. J'étais un de ceux-là. Mais oui, Jacinda fait vraiment du très bon boulot.
Le plus important, ce sont ses valeurs nationales que Jacinda Ardern a sans cesse remis au cœur de cette tragédie. L'unité a été prôné et chéri par tous dès le jour de l'attaque. Parler des victimes et ne même pas accepter de nommer leur tueur, certainement sans le vouloir. Elle aura donné une leçon aux chefs d'État du monde entier sur la façon de réagir à ces attentats.
Tunis veut juger Belhassen Trabelsi, le beau-frère du dictateur de l'ancien président Ben Ali. Une demande d'extradition va être adressée aux autorités françaises car Trabelsi a été arrêté dans le sud de la France la semaine dernière après des années de cavale. Maureen Mercier, notre correspondante à Tunis, en dresse le portrait.
On le surnomme le parrain. Belhassen Trabelsi, 56 ans, est le symbole du clan Ben Ali et de sa belle famille qui, pendant plus de 20 ans, fait main basse sur des pans entiers de l'économie tunisienne. Frère aîné et préféré de Leila Trabelsi, épouse de l'ex-dictateur, autant dire que tout lui était permis. Sous Ben Ali, le businessman est l'homme incontournable du régime. Immobilier, commerce, aviation, tourisme, il mène ses affaires au-dessus des lois. Quelques heures avant la chute du régime, il quitte la Tunisie à bord de son yacht, accompagné de toute sa famille et en emportant quantité d'objets précieux et d'argent liquide en dinars et en devises. Direction le Canada. Là, il n'hésite pas à demander l'asile politique. Le Canada refuse. Belhassen finit par disparaître dans la nature. 3 ans de cavale jusqu'à son arrestation dans le sud de la France. Il est incarcéré depuis lundi à Marseille. En Tunisie, l'homme a déjà été condamné par coutumasse à de lourdes peines, notamment pour trafic de devises, de métaux précieux et d'alcool ou encore pour détention de pièces archéologiques. La Tunisie veut aujourd'hui obtenir son extradition. Une demande formelle va être transmise aux autorités françaises qui n'ont jusque-là jamais extradé d'ex-responsables du régime de Ben Ali.
Le navire humanitaire italien Mare Jonio se situait à mi-chemin entre la Tunisie et la Sicile. À son bord, 48 migrants. Il a pu s'approcher des côtes italiennes de l'île de Lampedusa, mais le voilà saisi par le gouvernement italien sur demande du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Le cardinal Barbarin se met pour quelque temps en retrait du diocèse de Lyon. Condamné à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'abus sexuels sur mineurs, il avait présenté sa démission au pape François. Une démission refusée, nous l'avons appris hier. Le pape évoque la présomption d'innocence du cardinal Barbarin qui a fait appel de sa condamnation. Une décision qui étonne la conférence des évêques et qui indigne les associations de victimes. François Deveau notamment, il est le fondateur de l'association La Parole Libérée.
Ce sommet était une manipulation, était une mascarade et à chaque fois on remet de l'espoir là où il n'y a pas lieu d'en avoir. C'est la démonstration que la problématique de l'Église, ce n'est pas la pédophilie. La problématique de l'Église, c'est son dogme. Et que partout où l'Église est, l'abus est. Et que le pape est pleinement responsable et coupable de cette situation-là. Ça me semblait impossible de faire une telle erreur. Oui, je crois qu'ils sont dans une telle dérive sectaire que ils sont tellement persuadés qu'ils sont au-dessus de tout le monde que finalement c'est pas si étonnant que ça, quoi.
François Deveau, interrogé par Thomas Larabie pour France Culture. La ministre de la Santé tente d'apaiser la polémique sur l'âge de départ à la retraite. Après avoir émis l'idée de remettre en cause les 62 ans, Agnès Buzyn évoque maintenant des incitations pour partir plus tard à la retraite, mais pas plus. Cette semaine se déroulent les journées de la schizophrénie, une maladie qui touche 1% de la population, une maladie qui fait peur et que l'on connaît finalement assez mal. Notre spécialiste santé, Tara Schlegel, a ainsi rencontré Denis. Il a 51 ans, il est malade depuis ses 18 ans et il prouve que l'on vit aujourd'hui très bien avec la maladie quand elle est traitée, Tara.
Denis a toujours souffert de douleurs chroniques. C'est une hallucination corporelle. D'autres ont des hallucinations auditives. Ils entendent des voix. Lui était aussi dépressif. Or, ce n'est qu'en 2013 qu'il découvre seul sa schizophrénie sur Internet.
Sur différents sites, j'ai compris que ça correspondait exactement à mon cas. Qu'en fait, voilà, une maladie qui se déclare à la fin de l'adolescence, qui peut être difficile à diagnostiquer. Les conflits avec l'entourage et tout ça. La paranoïa aussi, voilà. Donc je suis retourné voir mon médecin traitant.
Médecin qui l'oriente enfin vers un psychiatre. Ses médicaments lui changent la vie. La preuve, il y a 18 mois, Denis suspend son traitement.
Je me sentais très mal. Déjà, je dormais plus. J'avais des sueurs froides toute la journée. Et puis voilà, les douleurs revenaient. La paranoïa revenait. Donc j'avais arrêté en prévenant le psychiatre. Et donc, au bout de 15 jours, c'est moi qui lui ai demandé à reprendre parce que c'était pas possible, quoi. C'était invivable.
Sous traitement, en revanche, Denis peut travailler, se réjouir de voir ses proches. Il est donc essentiel de traiter le plus tôt possible, rappelle la psychiatre Astrid Chevance.
Avant, on attendait qu'il y ait cette manifestation délirante. Et là, on disait, ah bah, lui, il est schizophrène. Maintenant, la stratégie, elle est inverse. Il faut aller repérer ces personnes-là au moment où les symptômes se développent de façon très très sourde, pas forcément pour mettre des médicaments, mais pour au moins accompagner, pour éviter qu'il y ait un isolement social et une aggravation du trouble. Et par contre, une fois que les personnes sont passées du côté de la schizophrénie, on peut mettre en rémission, on peut stabiliser, mais ça reste quand même une maladie chronique.
Chronique mais supportable quand elle est bien traitée.
Le soleil s'installe sur la France métropolitaine aujourd'hui. Les brumes matinales devraient rapidement lui faire de la place sous des températures qui remontent un peu. Comptez ce matin 9 degrés à Strasbourg et Boulogne-sur-Mer, 11 à Bordeaux et Lyon, 13 degrés déjà ce matin à Paris et Rennes, 14 degrés à Nice.